Ce matin, nous arrivons au chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 5. Vous souvenez peut-être de ce projet formé de prêcher de façon continue sur la première épître aux Corinthiens. Et nous arrivons à ce chapitre. Corinthiens, chapitre 5. Et donc, je vais lire tout le chapitre. Et en même temps, ce sera projeté ici. Voici ce que Paul écrit à l'église de Corinthe. Partout, on entend parler de l'inconduite sexuelle qui a cours parmi vous. Une inconduite telle qu'on ne la rencontre même pas ailleurs dans les nations. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes gonflé d'orgueil. N'auriez-vous pas plutôt dû en être désolé jusqu'à ce que celui qui a fait une chose pareille soit enlevé du milieu de vous ? Quant à moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a agi de la sorte. Quand vous serez rassemblés au nom de notre Seigneur Jésus, vous et mon esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'on livre un tel homme au Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec du levain de malfaisance et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle. Ce n'est pas d'une manière absolue avec tous ceux qui s'y livrent en ce monde, ni avec tous les gens avides, rapaces ou idolâtres. Autrement, vous devriez bel et bien sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, se livrerait à l'inconduite sexuelle, à l'avidité, à l'idolâtrie, aux insultes, à l'ivrognerie ou à la rapacité, et même de ne pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger ceux du dehors ? Et ceux du dedans, n'est-ce pas vous qui en êtes juge ? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Expulsez le mauvais du milieu de vous. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Pas facile, ce texte. Si je n'étais pas dans une série, je ne suis pas sûr que c'est un texte sur lequel j'irais avec entrain. Mais c'est un texte intéressant, un texte difficile, je disais, qui se divise, il me semble, en deux parties. Une première partie, assez courte, les cinq premiers versets, un cas particulier, traité avec une certaine urgence par l'apôtre, une certaine urgence et même une certaine virulence. Et ensuite, une deuxième partie plus longue et, je pense, plus générale sur l'attitude à adopter face au péché dans l'Église. La première partie, celle qui rapporte ce cas particulier, est certainement difficile à comprendre. En particulier, certains passages, certains versets un peu plus énigmatiques. Quand on est devant un texte comme ceci, qui comporte des difficultés, la bonne méthode à prendre, c'est déjà regarder ce qu'on comprend avant d'attaquer ce qu'on ne comprend pas. Quel est le cas, quel est ce cas particulier dont parle Paul à ce moment-là? Il parle d'un cas d'inceste, d'un homme qui vit avec la femme de son père. Alors, quand il dit la femme de son père, il ne s'agit pas de sa mère, parce que sinon il dirait avec sa mère. Sans doute, son père s'est-il remarié, peut-être parce qu'il était veuf. On ne sait pas si ce père est encore en vie, et il y a même des chances qu'il ne le soit pas, parce que Paul ne parle pas d'adultère. Tant qu'il y est, il dirait que c'est aussi un adultère, mais il ne le dit pas là. Donc, on peut penser que peut-être le père est décédé. Mais cet homme vit donc avec cette femme qui a été la femme de son père. Et c'est un scandale. Pourquoi est-ce un scandale? Parce que c'est un interdit, c'est scandaleux à la fois pour les Juifs, mais aussi pour les Gréco-Romains. Et Paul le dit, une inconduite telle qu'on ne la rencontre pas ailleurs, dans la culture de l'époque. Pour tout le monde, c'est quelque chose de scandaleux. Et du coup, on entend parler de l'affaire partout, ce que dit Paul. On en entend parler partout. Qu'est-ce que ça veut dire, partout? Déjà, on en entend parler dans les autres églises, puisque Paul est au courant, ça circule. Mais on en entend parler aussi, je le crois, à l'extérieur de l'église, dans la ville de Corinthe. Et c'est là qu'il me semble ça devient grave, en ce que l'Église est accusée d'accueillir en son sein le désordre. Quel est le problème exactement sur lequel Paul pointe tout particulièrement? Je crois que si on lit attentivement, on se rend compte que le problème n'est pas tant le péché de cet homme, la situation dans laquelle il s'est mis, c'est pas tant ça que le fait que l'Église ne fait rien. Et c'est ça qui scandalise Paul. L'Église ne fait rien. Plus encore, elle est fière. Alors, comment comprendre cette fierté? Deux façons de comprendre. Soit elle est fière de la situation elle-même. Elle est fière qu'en son sein, il y ait cette situation. Ça peut paraître bizarre, mais en même temps, quand on y réfléchit, parfois, on peut être fier de ce qu'on est suffisamment fort pour accueillir une situation compliquée. Suffisamment fort de s'être affranchi des lois morales et d'être au-dessus de ça pour avoir une relation avec Dieu, être suffisamment fort pour vivre une pleine liberté chrétienne. Donc peut-être c'est ce type de fierté que l'Église ressent, mais c'est peut-être d'une autre fierté, d'un autre orgueil dont Paul parle, puisque juste avant, au chapitre 4, il les invitait à ce qu'aucun d'entre vous ne se gonfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Si vous vous souvenez de ce qui se passe avant dans l'Épître, Paul fait de grands reproches aux chrétiens de Corinthe parce que ils partent dans des débats théologiques à regarder qui a le mieux compris, qui a le plus raison, qui est la meilleure école de pensée, la meilleure école de théologie. Et ils tirent une grande fierté de leur positionnement, une grande fierté de leur intelligence. Et j'ai l'impression que ce que Paul leur dit là, mais vous êtes fiers, vous pinaillez là sur des trucs qui ne sont pas importants, alors qu'il y a ça comme l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine qui traîne dans votre église. Vous ne regardez pas au bon endroit. Mes amis. Voilà la situation. Que faire? Le conseil de Paul, il est au verset 5, et c'est sans doute ce verset qui laisse dubitatif, qu'on livre un tel homme au Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il y a plusieurs difficultés dans ce verset. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'un tel homme soit livré au Satan ou livré à Satan ? Deux façons de comprendre. Peut-être on peut voir là un rite, une formule de malédiction qui est prononcée sur la personne. Mais je pense que, et c'est ce que j'ai trouvé dans des commentaires, il s'agit là d'une formule qui parle d'exclure de l'Église, d'excommunier. Dieu règne sur l'Église. Le Satan règne sur l'extérieur. Livrer au Satan, c'est faire sortir de l'Église pour remettre dans la sphère d'influence du diable et ne plus avoir partie de l'Église. Ce qui est demandé là par Paul, et le verset 2 va dans le même sens, c'est d'exclure, d'enlever du corps de l'Église celui qui a agi ainsi. Deuxième difficulté dans ce verset 5, c'est la compréhension des mots « chair » et « esprit ». On livre un tel homme au Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il y a deux façons encore de comprendre la chair. La chair, ça peut être la partie corporelle, matérielle, physique. Et dans la destruction de la chair, on peut voir une peine corporelle. Un châtiment corporel, ou la maladie, ou la mort. Mais j'ai du mal à croire à cette compréhension, parce que ça produit une économie étrange. Si la personne est punie dans son corps, alors ça produit quelque chose pour le salut de son esprit. Je trouve ça peu convaincant, et je trouve plus convaincant de comprendre chair comme la nature humaine, l'ancienne nature, quelque chose que Paul utilise beaucoup dans ses autres écrits. Et quand on parle de la destruction de la chair, de la destruction de l'ancienne nature, le chrétien est invité à ne plus vivre selon ses désirs, mais de vivre dans une vie nouvelle par l'Esprit. Et donc, du coup, ça prend sens. Le but de l'exclusion de l'Église, c'est d'aider le pécheur à se séparer de son ancienne nature, de se séparer de ses mauvais désirs pour revenir vers le Seigneur et vers la vie nouvelle et vers son salut. L'aider en le mettant à l'extérieur pour qu'il se rende compte de la gravité de ce qu'il a fait, pour ce qu'il rencontre de ce qu'il perd en étant privé de la communion de l'Église et qu'il se ressaisisse. Voilà ce que Paul dit dans ce premier temps où il parle du cas particulier. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, Paul développe une réflexion plus générale sur le péché. Premièrement, avec l'image du levain. Le levain, c'est une image que Paul n'invente pas. Il la tire de la Bible, de l'Ancien Testament, de l'Exode. Au moment où Dieu délivre son peuple d'Égypte, il les invite à faire la fête, à fêter la Pâque. Et dans cette Pâque, ils sont invités à utiliser des pains sans levain. Ils doivent faire le ménage et sortir de chez eux tout levain. Et le levain, il est là comme un symbole de corruption. À l'époque, on n'utilisait pas de levure. On utilisait un morceau de pâte déjà levé, un morceau de pâte fermentée qu'on mélangeait à la nouvelle pâte et qui faisait gonfler toute la pâte. Et ce levain représente le péché qui contamine autour de lui, la malfaisance et la méchanceté, comme dit Paul, qu'il ne faut pas trouver chez nous au risque qu'elle s'étende et qu'elle corrompe nos vies, qu'elle corrompe notre communauté. Ce levain qu'il faut remplacer par la sincérité et la vérité. Donc Paul parle du levain et aussi de la problématique de couper les ponts avec ceux qui vivent dans le péché et en particulier dans l'immoralité sexuelle. Il fait référence à une lettre qu'il a déjà écrite. Je vous l'ai écrit dans ma lettre, au verset 9. Visiblement, nous, on a 1 Corinthien et 2 Corinthiens, mais Paul a un peu plus correspondu que ça avec l'église de Corinthe. Et dans une lettre précédente, il a écrit quelque chose qui nécessite d'être précisé. Il leur a écrit de ne pas avoir de relation avec ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle. Alors, est-ce que Paul s'était mal exprimé, qu'il n'avait pas été assez précis, ou est-ce que c'est les Corinthiens qui ont fait semblant de ne pas comprendre, de penser qu'ils ne pouvaient avoir aucune relation avec les gens qui pêchent, ce qui, dans un monde qui n'est pas chrétien et où les gens n'ont pas les mêmes valeurs, n'est pas trop possible. Alors Paul précise le problème. Il ne s'agit pas de refuser de côtoyer les non-chrétiens, quel que soit leur comportement. Non, il s'agit de refuser de côtoyer quelqu'un qui, se nommant frère, pêcherait. Et il cite une liste, l'inconduite sexuelle, l'avidité, l'idolâtrie, les insultes, l'ivrognerie, la rapacité. Je ne crois pas que Paul parle là de quelqu'un qui trébuche de façon exceptionnellement, il parle de quelqu'un qui se livre à ses péchés. C'est-à-dire quelqu'un qui donne sa vie à cela, qui s'installe dedans, qui l'excuse, qui se dit « c'est normal » ou « c'est pas grave ». Ce n'est pas tant le péché qui pose problème que le fait que le chrétien s'en satisfasse, qu'il vive avec, qu'il se dise « c'est pas si grave ». Et Paul invite l'Église à juger. Juger non pas ceux du dehors, on est assez prompt en tant que chrétien à dire combien le monde va mal, combien les autres vont mal. Mais Paul le dit dans cette lettre, ça c'est le travail de Dieu. Notre travail c'est de faire le ménage chez nous. Non pas ceux du dehors, mais ceux qui font partie de la communauté qu'ils forment ensemble. Et il leur fait prendre conscience qu'ils forment un corps ensemble, que si un fait n'importe quoi, tout le corps est impliqué. Il y a une option d'action commune, de témoignage commun. Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls. Nous sommes une église ensemble. Et en conclusion, Paul cite cette parole du Deutéronome, « Expulsez le mal du milieu de vous ». Et Paul dit le mal et non pas celui qui pratique le mal. Il ne faut pas se tromper de cible, on n'est pas là pour s'éliminer les uns les autres, mais pour faire la chasse au mal qui peut se développer parmi nous. Paul invite à vivre la pureté. Il faut bien comprendre les choses, il ne s'agit pas là d'une moralité pesante qui rend la vie chrétienne compliquée. Mais il s'agit là d'une fête. Puisqu'il compare ça avec la Pâque et il invite, célébrons la fête. Alors, ça peut sembler bizarre hein, dans ces propos qui sont assez graves. Mais souvenons-nous, c'est un plaisir de vivre d'une façon qui plaît à Dieu. Et c'est un plaisir de vivre dans un environnement où règne la sincérité et la vérité, plus que dans un environnement où règne la malfaisance et la méchanceté. C'est vivre une fête, mais cette fête a un prix, le prix de la discipline, mais la discipline que nous pouvons accepter parce que la fête est belle. Et nous ? Paul s'adresse donc à cette église de Corinthe, mais nous, que faire de ce texte ? Il part d'un cas particulier qui n'a pas lieu dans notre église, pas à notre connaissance. Ce texte est-il ? Qu'est-ce que ce texte a à nous apprendre pour notre pratique ? Je relève 4 directions, 4 encouragements. Le premier, c'est cette exhortation à traiter vigoureusement les péchés graves. ne nous voyons pas la face. Il y a des choses qui sont inadmissibles dans l'Église. Il y a des choses qui choquent le monde autour de nous et qui fait dire au monde que l'Église est un lieu immoral et malfaisant. Peut-être que le cas de Corinthe ne vous parle pas, hein, si le membre d'une église évangélique qui s'installe avec la jeunesse que son père, avec la jeunette, pardon, que son père avait épousée dans son veuvage, ça choquerait certainement quelques-uns, mais je ne sais pas si la France évangélique serait en émoi, ou si on ne parlerait que de ça dans la presse régionale ou sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, avec la pédophilie, l'Église traîne une belle casserole. Et le monde ne se prive pas pour nous la rappeler régulièrement. Alors parfois, on peut jouer la carte de « c'est pas nous, c'est les cathos ». C'est un peu facile. Et ce mois-ci, le scandale qui est arrivé aux États-Unis avec la Southern Baptist Convention nous rappelle que chez les protestants et chez les protestants évangéliques, ça arrive aussi. On peut essayer de dire « c'est pas nous, c'est les Américains ». Mais sommes-nous si bien sûrs que c'est pas nous ? Mes amis, ne nous croyons pas immunisés, parce que nous ne le sommes pas. Ni de ce péché, ni d'autres péchés tout aussi scandaleux. Et je crois que nous pouvons recevoir ce texte comme une invitation à retrouver un sens des valeurs. Tous les péchés ne sont pas équivalents. Parce que nous savons que Dieu déteste le péché, nous disons parfois qu'il y a des péchés plus graves. Qu'il n'y a pas de péché plus grave, que tous les péchés sont graves, sont également graves. Ce n'est pas ce que je trouve dans la Bible. Il y a ce passage qui le dit. Il y a la loi de Moïse, des livres entiers à classer les péchés avec des conséquences différentes selon ce que nous faisons. Il y a aussi Jésus qui reproche aux pharisiens de filtrer le moucheron et d'avaler le chameau ? Non. Il y a des péchés graves, et il y a des péchés graves qui nécessitent une action radicale. L'exclusion, l'expulsion du milieu du corps. Souvenons-nous-en. La deuxième chose que nous pouvons faire avec ce texte, c'est prendre conscience du sérieux du péché. Si certains péchés sont plus graves, Dieu déteste le péché et tout péché est germe de quelque chose de plus grand. C'est l'image du levain. Le péché corrompt, il s'étend, il contamine. Ce n'est pas une nouveauté ce que dit Paul ici, il n'y a qu'à lire le sermon sur la montagne où on voit toute la radicalité de Jésus par rapport au péché. Nous sommes invités en tant que disciples du Christ à faire la chasse au péché dans nos vies et dans nos communautés, parce qu'il s'y étend. Parce que quand certains s'autorisent certaines choses, d'autres pensent pouvoir leur emboîter le pas. Parce que nous avons un témoignage commun dont nous ne pouvons pas nous dissocier. Ne nous trompons pas. La communauté chrétienne, ce n'est pas un lieu dans lequel il y a une meilleure moralité, ce n'est pas un lieu dans lequel les gens sont meilleurs que les autres, ce n'est pas un lieu dans lequel on a supprimé les péchés les pires et que les autres, ceux qui restent, le reste parce qu'ils sont tolérables. C'est une communauté de gens qui visent la perfection. De personnes qui prennent au sérieux l'enseignement exigeant de Jésus, de disciples qui cherchent à se transformer, qui ont conscience de ne pas y être, mais quand ils voient un péché, ils ne disent pas « ce n'est pas grave », mais ils cherchent à le faire disparaître. Le péché est une chose sérieuse. Du coup, que faire ? Concrètement, comment faire ? Et le commentateur Alphonse Maillot, de milieu réformé, écrit « Fréquemment, les églises de professants dont nous sommes sont des bouillons de culture de jugement. » C'est dur, mais il n'a pas tout à fait tort. À chercher le péché, à le combattre, le danger existe d'être un bouillon de culture de jugement, de tomber dans une forme d'inquisition. Comment faire ? Peut-être un rappel sur le but de la discipline. Le but de la discipline n'est pas l'exclusion, le but de la discipline n'est pas la punition. Le but de la discipline, c'est le rétablissement du pécheur. C'est mettre quelque chose en place pour que celui qui s'égare arrête de pécher. C'est ça le but. Comment faire ? Paul donne un exemple, pas seulement dans ce texte, mais dans son enseignement en général, dans l'Épître aux Corinthiens par exemple. Tout d'abord, il enseigne, il clarifie. Vivre en chrétien, ça s'attrape pas par contagion. C'est quelque chose qu'on étudie, qu'on apprend. Alors, Paul explique comment vivre en chrétien à des personnes qui viennent de l'extérieur de l'Église, qui ont l'habitude d'évoluer dans un monde qui a d'autres valeurs. Il faut expliquer l'exigence de l'Évangile, ce que Dieu attend de nous. Tout ça, ça ne s'invente pas. Ça se réfléchit en permanence, non pas parce que la loi de Dieu changerait, mais parce que la tentation et le péché prennent toujours des nouvelles formes. Il faut toujours réfléchir à nouveau. Deuxièmement, Paul avertit, lorsqu'il a connaissance d'une situation qui n'est pas un problème de connaissance, mais un problème de complaisance, un problème de ce que les chrétiens, de ce que l'Église disent, c'est pas grave, je peux vivre avec, personne n'est parfait. À ce moment-là, il vient interpeller, il le dit clairement, là vous vous trompez, corrigez le tir. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien, il envisage l'exclusion. On peut imaginer une exclusion graduée, ne plus autoriser d'exercer des responsabilités, tenir à l'écart pour un temps. Ou là, comme dans ce texte, l'exclusion complète de la communauté. Et je crois que ce côté gradué est en phase avec ce que Jésus enseigne dans Matthieu 18. Si vous avez ce texte en tête, Matthieu enseigne, si ton frère a péché contre toi, va le voir seul. S'il ne t'écoute pas, prends deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, place-le devant toute l'Église et considère-le comme en dehors de l'Église. Et cette gradation, elle est importante. Parce que le premier pas, ce n'est pas humilier publiquement devant l'Assemblée. La première étape, ce n'est pas critiquer devant tout le monde en public dans les commentaires Facebook. Non, on commence discrètement, donner l'occasion de changer sans connaître une honte inutile. Et si ça ne marche pas, on avance en passant à la vitesse supérieure. Autre chose aussi sur laquelle j'aimerais attirer notre attention, Paul s'adresse là à une église. Et une église, elle est organisée avec des responsables, avec des enseignants, avec des surveillants, hein, c'est la traduction du mot épiscope. Et sans doute, Paul pense que c'est à eux d'y aller et d'y aller premièrement. Ce texte-là, ce n'est pas un encouragement à faire un défilé devant la personne qui a fait quelque chose de mal, à y aller chacun à son tour quand quelqu'un a fait un truc de travers. Non, si l'Église est organisée, qu'il y a des personnes reconnues pour leur sagesse, leur compréhension de la Bible, pour leur bienveillance. C'est aussi pour ce genre de choses. Et on n'est pas appelé sur ce sujet à la vindicte populaire. Mais n'oublions pas, toute l'Église est concernée, et si l'organisation, les responsables faillissent, il faut réagir en les interpellant ou en y allant soi-même. Quatrième point, il y a une invitation à vivre cela avec joie. Ça paraît paradoxal. Ça paraît paradoxal parce que la discipline, ce n'est pas quelque chose qui nous réjouit. Se faire reprendre, personne n'aime ça. Et je crois que dans une communauté où règne l'amour, reprendre, on ne court pas après non plus. Souvenons-nous que, en devenant chrétien, nous avons fait de Jésus notre Seigneur. Nous voulons faire sa volonté et la faire non pas par obligation, mais par reconnaissance et par amour. Parce que nous savons ce qu'il aime. Et nous savons que faire ce qu'il aime, c'est bon pour nous, ça nous fait du bien. Et nous croyons qu'un environnement aimant, où règne la sincérité et la vérité, c'est meilleur qu'un environnement où règne la malfaisance et la méchanceté. Et aussi, la discipline, c'est une chance. La chance de savoir que si je dérape, je peux compter sur les autres. Compter sur eux pour me rappeler mon engagement et mon désir de suivre Jésus et de me soumettre à sa volonté. Et en devenant membre de l'Église, vous savez l'habitude que nous avons dans cette Église de venir devant et d'avoir ces paroles d'engagement, et on dit « je veux pouvoir compter sur vous ». Et lorsqu'on compte sur les autres, on compte aussi sur eux pour veiller sur nous-mêmes. Je compte sur vous pour veiller pour moi. Je vous autorise, si nécessaire, à me rappeler à l'ordre. Et je le fais non pas par masochisme, parce que j'aime me faire du mal et être repris, mais parce que je veux progresser. C'est pour cela que la discipline est une chance. Sujet compliqué. Mais sujet présent dans la Bible, je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à cela, pour recevoir du Seigneur.